infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, manipulateurs radio. Ils nous accompagnent dans les épreuves, mais aussi dans les plus beaux moments de la vie. À travers une série de podcasts, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers leur donne la parole. Ces femmes et ces hommes racontent les fragments d'un quotidien au cœur de l'hôpital. Quels moments ravivent leur vocation? Quels patients les ont marqués? Bienvenue dans Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la MNH, réalisée en partenariat avec Chérie FM.
Je m'appelle Léa, j'ai 29 ans et je suis manipulatrice d'électroradiologie médicale. On dit plutôt manip radio pour être plus court, et je travaille dans un hôpital. J'ai commencé en juillet 2018 dans le service des urgences. Notre rôle, c'est d'aider le médecin, de faire les images pour que lui puisse interpréter après. Donc on collabore avec les médecins. Eux ont besoin de nous parce que c'est nous qui faisons les images et qu'on est les seuls à pouvoir délivrer les rayons X. Et nous, on a besoin d'eux parce qu'on est sous leur responsabilité concernant les protocoles à effectuer sur les patients. Donc en radiologie, on a différentes modalités. La radiologie standard qui utilise les rayons X et qui permet de voir les os principalement, voir si quelque chose est cassé. Ensuite, on a le scanner qui utilise également les rayons X. Et on a aussi l'IRM, où là, c'est un examen qui est un peu plus poussé. Là, l'IRM, ça utilise un champ magnétique, en fait. Ça peut être complémentaire au scanner. On voit beaucoup plus d'éléments en IRM qu'au scanner. Chaque modalité va apporter des réponses à ce que le radiologue cherche, à ce que le médecin prescripteur cherche, que ce soit en radio ou au scanner, on voit les gens de l'intérieur. L'histoire date d'il y a 2 ans à peu près. Ce jour-là, l'interne vient nous voir en nous disant « on a un homme qui va arriver par le SAMU d'ici 30 minutes ». C'est assez grave apparemment, il faut vraiment être libre au scanner pour pouvoir accueillir le patient et aller au plus vite. C'est une équipe du SAMU qui part sur le lieu de l'intervention. Nous, on ne peut pas se déplacer à l'extérieur parce que la radiologie, c'est quelque chose de très contrôlé, parce qu'on utilise des rayons. Donc nous, on attend le patient à l'hôpital. On se prépare à son arrivée et à tout mettre en place pour que dès qu'il soit là, on le prenne en charge. Lorsque le patient est arrivé, on est appelé par le médecin des urgences vitales qui nous dit « le patient est là, est-ce qu'on peut venir au scanner ?» Et c'est là où on apprend l'histoire et le contexte de cet accident. Ce monsieur était sur son balcon, il surveillait son chat qui était sur la route. Il a vu une voiture le renverser et d'instinct, il s'est dit bah, « je suis au premier étage, je vais sauter de mon balcon, je vais me rattraper comme il faut et je vais aller voir mon chat, comment il va ?» Sauf que malheureusement, il est tombé sur le poteau du grillage. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé empalé sur ce poteau. L'équipe du SAMU et le médecin urgentiste nous disent qu'ils ont vu la personne empalée sur le poteau de grillage, qui était toujours consciente. Et en fait, le souci, c'est qu'elle ne touchait pas le sol. Donc, c'est-à-dire que la personne était empalée, donc elle ne pouvait pas se dégager toute seule. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas essayer de relever le patient, de le retirer du poteau, parce qu'on peut faire pire que mieux. C'est-à-dire que si le poteau, sur son passage, a endommagé une artère, là, à l'instant T, il bloque cette artère, ce qui fait qu'il ne fait pas d'hémorragie. Tandis que si les gens cherchent à l'aider à le sortir, ben le poteau ne fait plus obstacle à l'artère et c'est là où il peut se vider de son sang et faire une hémorragie. Donc le SAMU et les pompiers ont dû couper le poteau pour pouvoir défaire la personne et l'emmener aux urgences le plus rapidement possible. C'est la première fois que moi je voyais cette situation et sur le coup on prend le patient en charge, faire l'examen au plus vite et qu'il soit pris en charge par les chirurgiens par la suite. Sur le moment, quand le patient arrive, on le transfère sur la table. Il est perfusé, il est déshabillé, il est recouvert d'un drap et puis il a uniquement le poteau au niveau du bassin. Quand les patients viennent des urgences vitales au scanner, souvent ils sont stables. S'ils ne sont pas stables, ils ne viendront pas au scanner. Donc, il est dans un état grave vis-à-vis de la situation, mais il est stable au niveau des paramètres vitaux, c'est-à-dire au niveau des pulsations cardiaques, au niveau de la tension. Il est ce qu'on appelle stable. Donc là, le patient était un peu sédaté à cause de la morphine et des médicaments qui lui passaient. Donc, on lui parlait, mais il ne nous répondait pas forcément. Donc, on fait au mieux pour rassurer cette personne. On dit « ça va aller », on vous dit quand on injecte le produit, on essaye de ne pas utiliser la négation. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Il ne faut pas qu'on dise « ne vous inquiétez pas », mais plutôt « ça va aller, ça va bien se passer ». Donc, ils sont déjà inquiets pour leur état de santé. Si nous, on leur dit « ne vous inquiétez pas », ils vont retenir que ça et ça peut rendre l'examen encore plus difficile qu'il n'est de base. Ce scanner sert à observer la position de l'objet, dans quelle position le poteau est placé, dans quelle direction il va, s'il y a des organes de toucher, si en tombant le monsieur s'est fracturé le bassin. Ça permet de voir tout ça et aux chirurgiens à savoir comment ils vont procéder lors de l'intervention. Quand on fait l'examen, donc quand on est à la console, on appelle ça une console, on va poser ce que nous on appelle des boîtes d'acquisition. C'est représenté par un petit rectangle. C'est dans ce rectangle où les images vont être prises. Donc on se met au niveau des poumons et on va tirer la boîte jusqu'à, par exemple, la symphyse pubienne ou les hanches, en fait, pour bien avoir l'entièreté de la zone. Là, le poteau était vraiment au niveau du bassin, mais par précaution, on prend plus haut pour pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres séquelles causées. Donc, avec ce qu'on appelle sans injection, ça va être une image de référence. Et ensuite, on va injecter le produit de contraste. Et ce produit de contraste, en fait, va nous permettre de voir les vaisseaux. Donc, d'abord, on fait le sans injection, puis on demande l'autorisation pour injecter. Tout ça, on le fait machinalement, c'est sous l'adrénaline, c'est action-réaction. Le protocole est marqué, on y va, on fait ça et ensuite on demande l'accord de l'interne ou du radiologue pour savoir si c'est terminé. Au moment du scanner, il y a toujours du monde, c'est une petite salle, mais derrière à la console, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la salle du scanner à cause des rayons X. Et des fois, c'est vrai qu'on est un peu étriqué. Il y a les urgentistes, il peut y avoir le médecin qui est de SAMU, donc qui est aussi un médecin des urgences, et on peut avoir les chirurgiens vasculaires, les chirurgiens orthopédiques, s'il y a de la casse au niveau osseux, au niveau du bassin. Eux réfléchissent à comment ils vont pouvoir intervenir. Normalement, c'est un examen court, mais là, comme c'est quelque chose de grave, il faut qu'on prenne 25-30 minutes, le temps de l'installation, de faire les images, de surveiller le patient, de faire l'injection. On fait les allers-retours entre le scanner et l'interne pour justement savoir si ce qu'on fait est bon et s'il a besoin d'acquisition complémentaire ou non. On est dans l'action jusqu'à ce que le patient parte. Et ensuite, l'adrénaline redescend tout doucement. Et ça peut paraître un peu étrange de se dire ça, parce que c'est des gens qui sont gravement atteints. Mais nous, dans notre métier, c'est ce qui nous donne de l'adrénaline et ce qui fait qu'on est, dans un sens, content de participer à cette prise en charge du patient pour le sauver par la suite. Une fois que c'est terminé, le patient, on le remet sur son brancard. Il repart directement dans un bloc d'urgence. Et là, en fait, comme les chirurgiens ont accès aux images, ils vont pouvoir retirer ce poteau du corps du patient. L'opération se passe bien. Ils arrivent à tout retirer tout doucement grâce au scanner où on a vu qu'il n'y avait pas de vaisseau sur le passage du poteau. Ensuite, le patient va en réanimation. Je l'ai revu pour lui refaire des radios de thorax, pour voir l'état de ses poumons, pour voir la sonde d'intubation, des choses comme ça. Et ensuite, on peut parler avec l'interne ou le radiologue pour avoir des nouvelles du patient. On passe pas beaucoup de temps avec les patients. On les a à l'instant T. On va les prendre en charge et il est possible qu'on ne les revoie jamais. C'est pas comme dans un service de soins où les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants les voient tous les jours. Pour revenir sur le contexte de l'accident, des passants se sont occupés du chat et le chat va bien également. On voit pas ça tous les jours et heureusement, ça surprend parce qu'on se demande pourquoi il n'est pas descendu par les escaliers. Là, on peut se dire que c'est un accident un peu bête dans un sens, mais il a agi par instinct. Bah, je comprends parce que j'ai un chat aussi et si il lui arrive quelque chose, je ne sais pas comment réagir. Et chacun réagit différemment à chaque situation. Il n'y a pas à juger les patients sur ce qu'ils font ou sur ce qui s'est passé. Au quotidien, il faut savoir faire face à l'imprévu. Ça va de l'écharde au traumatisme crânien parce que les gens sont tombés, des maux de ventre qui durent depuis quelques jours. Et puis, la demi-heure d'après, on nous annonce un gros accident qui va arriver. C'est très divers. Chaque journée est différente de la précédente. On ne sait pas, en arrivant à 8 heures, ce qu'on fera de notre journée, en fait. On travaille beaucoup en équipe, on s'entraide beaucoup, on est là pour le patient. Les examens qu'on fait au patient, c'est utile pour son parcours de soins. Notre rôle, c'est de donner les réponses au médecin pour le parcours de soins du patient et pouvoir le soigner correctement. On fait tout pour le patient. C'est un métier très peu connu. Quand on parle avec des gens de l'extérieur et qu'on dit notre métier, en fait, quand on leur dit qu'on est manip radio, il y en a qui peuvent nous dire tout de suite « Ah, tu travailles chez telle ou telle radio ?» Et on dit « Non, pas du tout. Nous, on fait de la radiologie, on travaille dans un hôpital. » Souvent, ils nous disent qu'ils connaissent pas ou souvent, on peut nous confondre avec des infirmières ou des infirmiers. Et on dit non, on n'est pas infirmière ou infirmier, on est manipulateur radio.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Hospitalier, la série de podcasts de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisée en partenariat avec Chérie FM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer les prochaines histoires. Histoire d'Hospitalier est disponible sur le site et l'application Chérie FM, sur le site mnh.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.